Louis.
On a demandé de créer une nouvelle capacité des armées, comme au début du siècle, on a créé l'arme aérienne. Là, on crée l'arme informatique. Ce qui est intéressant dans cet espace numérique, c'est que tous les ans, vous avez une surprise stratégique. Et on n'a pas fini.
Cyberguerre, le mot fait peur, semble presque futuriste. Des opérations coordonnées par ordinateur, anéantissant les réseaux informatiques à coups de virus qui prolifèrent. Mais pourtant, ce sont bien des armes et des méthodes de guerre déjà utilisées aujourd'hui, et même depuis longtemps. La cyberguerre s'est intégrée progressivement au droit des conflits armés, le droit international humanitaire malmené dernièrement en Ukraine.
Le droit international humanitaire aujourd'hui est violé tous les jours.
Que dit le droit international humanitaire à ce sujet ?
Serious violations of international human rights law.
Ça fait partie de leurs obligations, c'est pas optionnel le droit international humanitaire.
Un droit donc en mutation permanente pour tenter de suivre les innovations technologiques. Avant d'entendre le quotidien de ceux qui l'adaptent à ces mutations, retour sur sa genèse avec l'un des premiers concernés, l'amiral Arnaud Coustillière.
Carrière d'une quarantaine d'années au service de l'État. Je suis d'abord une carrière maritime, puisque j'ai navigué, j'étais à la mer un peu plus de 15 ans. Assez naturellement, au fil de ma carrière, je me suis éloigné des opérations maritimes après avoir commandé plusieurs navires de combat. Et puis, je me suis rapproché de tout ce qui était l'émergence du numérique, quasiment depuis le début des années 90. Et progressivement, j'ai gravi dans ce milieu en travaillant à la transformation numérique de la marine. Et puis, j'ai eu surtout la grande chance d'arriver à l'état-major des armées, qui est la maison mère de l'ensemble des armées. Et au moment où le livre blanc de 2008 sortait, et c'était ce livre blanc qui a refondé la cybersécurité et la cyberdéfense de l'État français.
Ce document public définit les risques et les menaces. Il détermine aussi la politique de défense et de sécurité nationale de la France pour les 5 années à venir.
Donc j'ai eu la grande chance de me voir confier la mise en place de la transformation, de la création de la cyberdéfense du ministère et des armées. En juillet 2011, j'ai été nommé le premier officier général à la cyberdéfense, poste que j'ai quasiment occupé jusqu'en 2017, soit plus de 6 ans, en gros quasiment 8 ans à m'occuper de la création de cette force et la faire progressivement monter à partir du début 2017 vers le commandement plein qui s'appelle aujourd'hui le ComCyber.
ComCyber pour commandement de la cyberdéfense. Ce commandement est placé sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées, c'est-à-dire le plus haut gradé de l'armée française. Le ComCyber a pour mission de défendre les systèmes d'information des armées et de penser, planifier et mener à bien des opérations militaires dans le cyberespace. Un domaine qui ne fait que prendre de l'ampleur, suivant la même trajectoire que la carrière d'Arnaud Coustillière, celle d'une ascension rapide.
Ce qui est surtout extrêmement frappant, c'est que quand j'ai pris mes fonctions en 2011, j'avais un tout petit état-major de 3 personnes avec secrétaire compris. Et quand j'ai quitté mes fonctions en 2017, mon état-major pesait à peu près 70 personnes et on avait déjà recruté de l'ordre de 1500 spécialistes du domaine. Donc, qui vous montre la priorité qui a été accordée par l'État français à la création de cette nouvelle capacité, alors qu'au même moment, on réduisait très 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 fortement l'ensemble des budgets de la défense et l'ensemble des forces.
Revenons en 2008, quand Arnaud Coustillière commence à structurer la cyberdéfense de l'État français. Eh bien, à cette époque, des attaques informatiques importantes préoccupent déjà les états-majors des armées.
Celle qu'il a plus connue, c'est l'attaque informatique contre l'Estonie, où un gros opuscule pro-russe, après un événement de déplacement d'une statue à Tallinn, a mené une attaque qui a perturbé l'État estonien pendant plusieurs jours. Et ça, ça a été un révélateur parce qu'une nation de l'OTAN était attaquée, même si ça n'a pas été une attaque militaire, a été attaquée, a été neutralisée, a été perturbée. Ça a été un peu un traumatisme. 2008 aussi, ce sont des opérations en Géorgie qui ont été accompagnées d'attaques informatiques. On a aussi parlé de raids israéliens en Syrie, dont les systèmes radars avaient été perturbés. Donc, simplement, partout autour du monde, vous avez eu un certain nombre de manifestations, de choses qui montraient un changement d'échelle, un changement de dimension. Je veux dire que ce n'est pas une surprise d'être capable de faire une attaque informatique. Par contre, voir que ça change de dimension, c'est important. Donc, la période 2008-2010 a été une période charnière dans laquelle beaucoup d'États ont lancé des réflexions ou ainsi de suite. Mais il y avait un manque total de maturité à l'époque. Il a fallu attendre le livre blanc 2008 pour que ça devienne une forte priorité.
L'amiral vient de le dire. À ce moment-là, la France manque de cadre concernant l'offensive, l'attaque. On ne parle pas encore de cyberguerre, c'est-à-dire d'attaque informatique dans un conflit armé, mais pour l'instant, seulement de défense.
Au sein du centre de préparation et de conduite des opérations, j'ai été en charge d'intégrer la cyberdéfense à toute la planification des opérations militaires. Donc très rapidement, on s'est posé des questions autour de notre cadre juridique. Donc j'ai été assez vite amené à prendre contact avec l'antenne du CICR France de la Croix-Rouge. On a travaillé sur des échanges sur le droit numérique. Moi, je posais les problématiques, comment eux, ils appréhendaient cette question. Voilà, donc des relations assez naturelles, des participations croisées à des colloques, l'invitation systématique à l'ensemble de leurs réflexions.
Arnaud Coustillière est en lien avec la Croix-Rouge française et le Comité international de la Croix-Rouge, car ils sont les garants du droit international humanitaire. Et à ce moment-là, l'adéquation du cyberespace au DIH interroge. Les cyberattaques peuvent-elles finir par tuer? Et puis comment déterminer avec certitude qui sont les responsables et commanditaires? Les États vont devoir trancher. Et progressivement, l'arsenal juridique se consolide, permettant de faire rentrer ces nouvelles opérations dans le cadre légal.
C'est pour ça que je me suis entouré extrêmement rapidement de conseillers qu'on appelle dans notre jargon legal advisor. Et quand notamment on travaillait sur les réseaux sociaux, comme nous l'avons fait à une époque face à Daesh, je vérifiais et j'entérinais avec ma légade quasiment tout ce que l'on diffusait pour bien vérifier que l'ensemble des choses que l'on utilisait pouvaient être revendicables par les armées françaises et que je ne mettais pas en difficulté à la fois le pouvoir politique français et mon chef d'état-major des armées si jamais c'était révélé que c'était des Français qui le faisaient ça.
Le commandement de l'amiral s'adapte aux spécificités de ce théâtre d'opération. Un théâtre très différent de celui de l'armée de terre, de l'air ou encore de la marine, qu'Arnaud Coustillière a bien connu.
Quand vous faites une opération commando, qu'on appelle en jargon un va-et-vient, une fois que les gens sont partis, généralement, il n'y a plus de traces, sauf s'ils ont été vus. Dans le monde numérique, c'est pas vrai. La particularité du monde numérique, c'est qu'il n'oublie jamais rien. On est observé en permanence, on laisse des traces, on n'oublie jamais rien. C'est pas pareil que dans le monde classique, matériel. Il y a toujours des petits morceaux de code qui restent de droite et de gauche. Et puis, on ne sait pas qui vous observe. Et puis, derrière tout ça, c'est enregistré dans data center, voilà. Et puis, ça peut ressortir un jour. Donc, les précautions d'usage ne doivent pas être du même niveau. La deuxième chose aussi, le monde numérique, quand on utilise des armes numériques, entre parenthèses, des virus, c'est un monde qui est marqué par la prolifération. Donc, il y a une responsabilité aussi des États qui sont de ne pas utiliser des armes qui peuvent ensuite tomber dans les mains des groupes cybercriminels, des hackers, ou alors des groupuscules étatiques. Donc, c'est plus compliqué de mener une attaque numérique en termes de réflexion, parce qu'à la fois, quand on vous fait une attaque par moyen cinétique, une bombe, vous connaissez les effets collatéraux, c'est modélisé, et c'est une arme qui est sur étagère. Une attaque informatique, vous devez réfléchir de ne pas laisser de dégâts collatéraux, ne pas laisser de traces. Donc vous voyez bien que quand on est une nation démocratique avec un ensemble de règles éthiques, c'est une arme qui a un emploi quand même relativement compliqué, bien qu'elle offre des possibilités absolument extraordinaires. Défaire un ennemi sans combattre, le numérique le permet. Le numérique permet des potentialités extraordinaires de gagner la guerre sans combattre, mais d'un autre côté, sa mise en œuvre demande des experts et ce n'est pas ouvert à tout le monde.
À la tête du commandement cyber, Arnaud Coustillière explique que ses équipes ont été rapidement débordées par le nombre d'opérations jusqu'en 2020. À ce moment-là, la décision est prise de publier les doctrines qui guident leurs actions au quotidien. La doctrine de lutte informatique défensive comme offensive. La cyberguerre est donc officiellement une nouvelle forme de conflit entre des États, impliquant de fait le droit international humanitaire dans ses nouvelles méthodes d'attaque.
C'est quoi des missions réussies en matière de numérique ? Vous produisez, par une attaque informatique, le même effet qu'un effet physique, de façon simple. Donc ces effets, vous pouvez les avoir soit par de l'acte technique de pénétration, donc une attaque informatique, donc un virus, ou une prise de contrôle à distance d'un système d'information au sens large, qui peut être des télécommandes de systèmes d'armes, des télécommandes de systèmes industriels, ou du système d'information classique, un PC, ou alors des serveurs, ou encore des réseaux radio-tactiques. Vous êtes à distance, vous êtes rentré à l'intérieur du système adverse, et soit vous rentrez pour piquer de l'information, donc de l'espionnage, soit vous rentrez pour manipuler l'information et fausser les décisions de l'entité adverse ou le mode de fonctionnement du système, ou alors vous rentrez pour saboter, pour détruire. Voilà. Typiquement, quand on a des forces déployées, au Syrie, au Mali, à différents endroits, le numérique va leur apporter un appui. La seule différence, c'est que le numérique apportera un appui en étant situé à distance, d'où l'importance de cadre juridique qui est de savoir comment je fais pour apporter mon appui à distance, par où je passe, comment je passe, comment j'enfreins pas les lois pour apporter cet appui. Si on peut neutraliser à distance un système de combat encore plus intelligent, être à l'intérieur du système de combat adverse en faisant simuler une panne pile au moment où vous avez votre action tactique de vos forces qui passent, c'est encore plus intelligent. Donc c'est ce genre d'appui qu'il faut coordonner. Donc oui, il y a dans toute guerre aujourd'hui, dans toute opération militaire, un volet numérique, qu'il soit un volet d'influence ou que ce soit un volet plus de pénétration. Est-ce qu'il peut y avoir des morts par une attaque informatique ? Ma réponse est oui, bien sûr. Mais les morts ne seront pas directes, ils seront par conséquence. Vous avez des cibles qui sont éligibles à l'arme informatique et des cibles qui n'y sont pas. Et les façons de les définir, c'est le droit des confirmés, le droit international humanitaire. Un hôpital, vous n'avez pas le droit de l'attaquer. Éthiquement, c'est inacceptable. Par contre, un système de combat, un système d'armement ou tout ce qui participe directement aux opérations, à l'identique de ce que vous pouvez frapper de façon cinétique, vous avez le droit de l'attaquer. Donc, c'est assez simple quand vous êtes dans la pénétration informatique. Après, vous avez des zones un peu grises. Est-ce qu'une usine électrique contribue directement ou pas ? Une usine électrique qui alimente une ville, c'est totalement illicite de l'attaquer. Donc, c'est totalement illicite de la bombarder. Par contre, un groupe électrogène ou une centrale intégrée à une zone militaire, à une infrastructure portuaire, à une base aérienne, vous avez totalement le droit de l'attaquer. Il y a un bon niveau de réflexion, en plus, qui est mûri par l'expérience de toutes les campagnes contre Daesh, puis l'expérience d'une capacité qui existe, depuis une dizaine d'années aujourd'hui, et qui est montée en compétence progressivement. Ce qui est beaucoup plus complexe après, c'est tout ce qui va jouer dans le champ des perceptions. C'est jusqu'où vous avez le droit d'aller, qu'est-ce que vous avez le droit de faire. Là aussi, vous êtes militaire en uniforme, vous n'avez pas à manipuler les populations, ou ainsi de suite.
Une montée en compétence progressive, mais qui laisse tout de même de nombreuses zones d'ombre, ou même grises, dans la cyberguerre, et que le droit doit encore éclaircir.
Donc ce qui pose un problème de fond, parce qu'on voit bien que dans cet espace numérique dans lequel les acteurs avancent masqués, il y a des nations qui se sentent totalement débridées et qui se permettent des choses qu'ils ne se permettraient pas dans l'espace physique normal. D'où un certain nombre de questionnements, d'où un certain nombre de réflexions à mener qui doivent se terminer notamment là où le droit international prend sa source, c'est-à-dire au niveau de l'ONU. Et c'est vrai, c'est complètement dérégulé. Cela pose un certain nombre de questions sur la sécurité, la stabilité des relations entre les grandes nations ou entre les grandes nations et des groupuscules et ainsi de suite. L'autre particularité, c'est que l'espace numérique aussi a vu se développer énormément tout ce qui est réseaux sociaux. Donc tout ce qui est influence, propagande, manipulation, là du coup manipulation de l'information pendant les campagnes et puis aujourd'hui c'est la désinformation organisée devient une menace pour les démocraties. Et il faut considérer que le numérique, c'est pour ça qu'on le considère, moi je le considère beaucoup comme un nouvel espace. Et ce nouvel espace, il irrigue toutes les activités humaines. Et il a une dimension un peu effrayante parce que c'est le premier espace qui permet aussi d'accéder au champ des perceptions, à la pensée. C'est extrêmement important.
Le droit reste à faire sur de nombreux domaines qu'énumère Arnaud Coustillière. Le recours aux algorithmes, les liens aussi qu'entretiennent les armées avec les géants du numérique, les GAFAM, ou encore l'intégration de l'intelligence artificielle. Les drones armés et les cyberattaques récentes chamboulent l'action humanitaire. À chaque nouveau progrès technologique, les services juridiques des États doivent s'y confronter, évaluer la conformité de ces nouvelles méthodes de guerre avec le DIH. Mais qui sait quelles innovations numériques apparaîtront demain ? À quels défis les acteurs internationaux devront s'adapter ? Même s'il est toujours très actif dans le domaine de la cybersécurité, l'amiral Arnaud Coustillière est aujourd'hui retraité de l'armée. Alors, on a voulu comprendre comment l'armée française tente aujourd'hui de s'adapter à ces évolutions numériques. Quelle place occupe le DIH dans la décision de lancer une cyberattaque ? Est-ce que les militaires peuvent vraiment se déployer en toute légalité dans un espace aussi dérégulé que le numérique ? On a posé toutes ces questions directement au ministère des Armées à Paris.
Thomas Grindor, je suis le conseiller juridique de l'officier général du Comcyber. Là, actuellement, on est à Ballard, donc là où est le lieu de tout l'état-major des armées en général et notamment le commandement du Comcyber.
Depuis plus d'un an, ce juriste exerce au plus près du commandement de la cyberdéfense au ministère des Armées. Dans le jargon de l'armée, Thomas Grindorge est un LEGAD. C'est l'acronyme de Legal Advisor.
Notre travail, alors, il y a toute la partie juriste classique de tout l'accompagnement du commandement, la rédaction de conventions, négociation d'accords internationaux, analyse juridique diverses et variées. Et bien sûr, quand on est au sein de l'état-major des armées, on a aussi toute la partie conseil juridique opérationnel, jusqu'au conseil tactique de « on va mener telle manœuvre, telle opération, faire telle action, est-ce que juridiquement c'est OK ?» Et sinon, comment on pourrait le faire de manière tout à fait licite ou de dire totalement avis défavorable aux besoins. Ça, c'est pour les parties les plus offensives qui vont concerner plus le DIH. On a telle manœuvre en tête, voilà comment on va la réaliser en pratique. Et moi, de dire si bah, par rapport aux textes, à la fois internationaux mais aussi nationaux, on est effectivement légitime à le faire. Et on est dans le cadre légal adapté. C'est quotidien d'avoir à mener ces analyses, souvent parfois dans l'urgence, c'est ce qui est intéressant. Après, du défavorable, je vous rassure, très rarement. J'ai une idée, est-ce que déjà il y a une alerte à faire et dire bah, juste, il ne faudra pas dépasser ce seuil-là. Là, c'est une assez mauvaise idée, mais en le faisant comme ça, en fait, c'est parfaitement faisable. Vous avez juste fait une petite erreur. Voilà, et ça se corrige assez facilement. Il y a rarement de soucis parce qu'ils sont très à l'écoute de ce qu'on dit, que ce soit au niveau du commandement, que des opérationnels traitants. Et ça se passe toujours très très bien ici.
Le légal n'intervient pas uniquement pour la cyberdéfense. Toutes les directions des armées ont des juristes dans leurs effectifs pour les aider à identifier le périmètre légal de leurs opérations.
Article 82 du protocole additionnel 1 aux conventions de Genève. Les hautes parties contractantes en tout temps et les parties au conflit en période de conflit armé veilleront à ce que des conseillers juridiques soient disponibles, lorsqu'il y aura lieu, pour conseiller les commandants militaires à l'échelon approprié.
Une des grosses difficultés, qui est plus une difficulté technique, mais qui a des échos juridiques, c'est la difficulté de l'attribution, c'est-à-dire de définir que l'action cyber que nous avons subie vient de tel État. Si un missile est tiré sur notre territoire, c'est assez facile de voir d'où vient ce missile. Pour faire très simpliste, quand c'est une action cyber, forcément, c'est beaucoup plus difficile, surtout que le but du cyber, c'est qu'on se fait passer autant que possible pour un autre aussi, on essaie de masquer ses traces. Donc forcément, techniquement, c'est difficile de remonter là-dessus.
Dès 2019, la France a clarifié sa position avec un rapport précisant sa vision du droit international appliqué aux cyberopérations. Mais certaines actions en opération restent toujours dans l'ombre du droit. C'est la mission et la pression sur les épaules du LEGAD. Il doit jongler avec ses incertitudes tout en s'assurant de la légalité des actions menées par les militaires.
Être conseiller juridique dans le cyber, c'est complexe parce que c'est des sujets très techniques, il faut rentrer dans le technique et aussi parce qu'on a un droit effectivement qui est encore un peu imprécis, il y a besoin de préciser, mais c'est justement ce qui est très intéressant au jour le jour. Mais les États ont bien compris que c'était important de travailler sur ce sujet et de continuer à avancer.
des imprécisions levées dans les colloques par des lectures, des exercices, des discussions. Par exemple, Thomas Grindorge a été consulté par la Croix-Rouge à propos de la création d'un emblème numérique. Cet emblème permettrait ainsi d'identifier en ligne ces systèmes informatiques et, en cas de tentative d'intrusion, d'avertir des hackers qu'ils tentent d'entrer dans cette organisation internationale dont les données doivent être épargnées. Cette préoccupation est aujourd'hui une priorité après la cyberattaque subie par le CICR en 2022. Les données de plus de 515 000 personnes ont été dérobées. Cet objectif est soutenu par l'amiral Arnaud Coustillière, conseiller auprès du CICR pour l'application du numérique dans le droit des conflits armés. Cet épisode a été tourné, monté et écrit par Marion Botorel. Nicolas Vert a fait la réalisation et le mixage. Elsa Berthaud a aidé à la production. À très vite !